Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, je fais ce podcast en urgence absolue. Nous sommes en danger de mort. Alors, j'ai pas fait de podcast pendant 2 semaines parce que vraiment, c'était tambour battant pour moi. Vous savez que j'ai en ce moment une vie personnelle assez mouvementée puisque je suis en train de diligenter les travaux donc pour finir le gymnase d'entraînement pour pouvoir former au maximum Jules, le boxeur que j'entraîne, et moi-même pour me remettre en forme, puis ensuite faire des vidéos de mise de gants dans ce gymnase, et à la fois de faire à quelques kilomètres de là les travaux pour ma maison. Donc voilà, mais ça avance gentiment. Mais du coup, j'étais très pris. Il a fallu que je voyage à Paris. Je fais encore l'objet d'une plainte de SOS racisme. Donc il va falloir que j'aille encore une fois. Je crois que c'est la 6e, si je dis pas de bêtises, 6e convocation que j'ai à la BRDP pour aller faire une déposition. Voilà. Pour me justifier de choses que j'ai écrites dans La Furia, qui est une revue satirique. Donc bon, bref. Donc si vous voulez, voilà, une semaine mouvementée. Donc je n'ai pas eu la possibilité de vous faire des petits Burger Ring. Surtout que, en fait, pour les faire aussi, il faut que je sois posé, faut que j'ai mon matériel. Et ça fait 2 fins de semaine que je ne suis pas chez moi. Donc voilà. Je suis désolé pour l'attente, les amis, mais on reprend. Alors je vous disais en début d'épisode, nous sommes en danger de mort. Donc pendant les 2 semaines là où j'ai pas fait de podcast, je suis monté à Paris pour aller claquer une énorme émission avec notre ami Le Raptor. Donc ça, vous l'aurez ce soir à 18h, l'émission. Vous aurez ce podcast quelques heures avant, 2 heures avant, je crois. Bon, de toute façon, la majorité d'entre vous l'écoute le lundi, hein, en général. Mais voilà, donc je vous prie de m'excuser. Mais voilà, je tournais des choses. Donc c'était un petit peu compliqué. Alors, j'ai passé donc 2 semaines sans podcast. Je suis monté en France, donc, comme je vous disais, pour faire l'émission avec Le Raptor. Et j'ai observé, et c'est absolument désastreux. Le plus grand péril pour notre civilisation, figurez-vous, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas la gauche, hein, ce n'est pas le pouvoir d'achat, ce n'est pas les retraites. Hein. Je crois que le plus grand péril pour notre civilisation, c'est la fin de la beauté et la victoire sur nos vies du dream. Alors, qu'est-ce que c'est que le dream, la dream life, les dreamers? C'est tout simplement l'enfer sur Terre. Vous savez que le paradis terrestre peut exister, à peu de choses près. Eh bien, si le paradis terrestre peut exister, l'enfer terrestre, lui, existe carrément. Et je peux vous dire que c'est beaucoup plus la règle que le paradis, quoi. Donc, si vous voulez, le dream, qu'est-ce que c'est? Parce que, avant toute chose, quand même, il faut bien spécifier de quoi je parle quand je parle de dream. Alors déjà, il faut comprendre un truc. C'est que j'ai déjà fait des épisodes sur la médiocrité. Le dream, en fait, c'est la vie médiocre que vous propose la modernité, et a fortiori la modernité à l'intérieur du cadre républicain d'une France en dégringolade et en perdition, qui est un sujet en fait intarissable de médiocrité, de tristesse et de petitesse et de mesquinerie. C'est vraiment le dream français, le French dream. Hein, qu'on oppose un petit peu de manière comme ça ironique à l'American Dream. Je ne l'ai pas assez exploré, mais il faut dire aussi que c'est abyssal. Si vous voulez, la médiocrité est une faille océanique. Et en fait, t'as beau penser que t'es allé suffisamment profond, non, tu es appelé par les abysses, le sous-marin doit aller toujours plus profond, putain, appelez James Cameron qui nous invente un sous-marin qui peut aller suffisamment profond pour aller sonder la tristesse de la Néo-France. La tristesse de la Néo-France. Alors, qu'est-ce que c'est que la Néo-France? Parce que je balance des concepts depuis tout à l'heure comme ça, mais on n'est pas chez les PD de sociologues à la fac du Mirail, donc on a le droit de balancer des concepts sans donner des explications de Tarlouz juste après qui casse le rythme, mais je vais quand même le faire tout au long de ce podcast. Je vais quand même vous expliquer petit à petit de quoi on parle, parce que c'est vraiment important de cibler cette grande maladie civilisationnelle de la médiocrité. Le dream, la médiocrité, et en fait, c'est de cette médiocrité, c'est de cet abandon de soi et de la nation que naissent tous les autres problèmes, en fait, si vous voulez. C'est parce qu'on a renoncé à tout que les gauchos ont de la marge de manœuvre, que l'islam a de la marge de manœuvre et que tout le reste, tout ce qui veut détruire la France, a de la marge de manœuvre. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est important de comprendre que ça n'est pas juste une tranche de rigolade d'éclater et de clasher le dream, que c'est aussi essentiel pour que vous compreniez que la médiocrité dans laquelle on baigne influe sur nos rêves et nos projets qui deviennent eux aussi médiocres. Vous comprenez? Et on ne peut pas attendre d'un bain médiocre qu'il y ait une orchidée qui pousse dessus. Ouais, je sais, l'image est pourrie. Mais on ne peut pas attendre qu'un bain de merde nous fasse germer comme ça un pouce de rose, de jasmin pour en atténuer l'odeur. C'est parce que le jardin est irrigué avec de l'eau claire et de la bonne terre, du bon terreau et un beau soleil qui peut donner une belle fleur. Voilà. Si vous voulez, une marée de caca ne peut pas aboutir sur un plan d'orchidée. Voilà. C'est vraiment ça, il faut le comprendre. Et c'est en s'attaquant à la médiocrité qu'on aura une manière d'influencer le marécage le marécage de merde. Voilà. C'est en purgeant la merde du marécage qu'on deviendra un beau lac et que les cygnes auront envie de se reposer dessus. Putain, c'est magnifique, je suis vraiment un poète, merci la première L. Ça m'a mis au chômage pour un paquet d'années, mais quand même, au moins, je peux faire des belles phrases dans les podcasts. Quoi. Le French Dream ! Le French Dream, qu'est-ce que c'est ? Le French Dream, c'est une maison acquise grâce à un... Si vous voulez, voilà. En fait, il faut comprendre que déjà, l'endettement par lequel je suis passé, hein, je ne vous fais pas la leçon, hein, je suis passé par des phases de Dream, hein. Je suis passé par des phases de dream. Bon, donc si vous voulez, je suis pas là en train de percher sur ma branche en train de vous dire ah vous êtes des merdes. Hein. Je suis passé par le tamis du French Dream. Mais à un moment, je lui ai mis une PLS. Hein. Tu vois, j'ai passé ma ceinture noire, je lui ai mis un hippon au dream. Tu vois, parce que j'en pouvais plus. En fait, je suis en train de faire des crises d'angoisse. Hein. Donc déjà, il y a l'endettement de fils de pute pour acquérir une baraque qui n'est même pas la baraque de tes rêves, qui est presque la baraque de tes cauchemars, en fait. C'est-à-dire que tu es propriétaire dans la maison que tu ne voulais pas. Et tu as un niveau d'endettement, si tu veux, qui fait de toi pratiquement un individu d'argile, de tellement que tu es un golem, hein, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu as un taux à 5% pour acquérir une baraque entre deux baraques similaires, en matériaux modernes, mal isolés, où il va falloir que tu foutes un putain de ventilateur l'été, là, avec la porte à moitié ouverte pour l'extraction, si tu veux. Et qu'en hiver, il faut te foutre un chauffage d'appoint parce que les murs, c'est des putains de passoires thermiques. Parce que l'enculé en costard thermocollé qui te l'a vendu est un petit enculé d'irresponsable déchristianisé qui n'a aucun scrupule à te vendre une merde sur 25 ans pour pouvoir toucher une prime et aller s'acheter une bagnole d'enculé. Et même pas une bagnole de juif qui a réussi à enculer des goy. Non, 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 non. Une bagnole de goy qui a enculé des goy. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la Maserati, la Panamera. Non, non, le mec s'est acheté une Golf GTI, si tu veux. C'est-à-dire qu'il t'a foutu ta vie en l'air pour s'acheter une Golf GTI. C'est-à-dire que c'est vraiment une sale merde, quoi. Tu vois, c'est le premier grade. Hein. Tu n'es même pas inclus dans le Talmud, si tu veux. C'est-à-dire que tu es un goy déchristianisé, protestantisé max, si tu veux. C'est-à-dire que là, tu vends à tes semblables d'argile, à tes hommes d'argile semblables, tu leur vends des crédits sur 25 ans, alors mentant sur la nature du bien immobilier que tu leur vends. Ouais, c'est une super baraque, quartier très dynamique. Bon, la réalité, c'est que la baraque, elle est mal isolée, elle a été faite à la va-vite. En fait, ça a été fait par des maçons turcs qui s'en battent les couilles. Donc, si tu veux, il y a eu des carabistouilles sur le ciment. Donc, ta baraque a fissure. Ils ont construit le truc à la va-vite. Ils ont pas laissé le terrain travailler avec les fondations. Ils ont vite construit la baraque dessus pour vite empocher la thune. Donc, 5 ans plus tard, le terrain qui était en argile, parce qu'il est à Saint-Martin-du-Touche, si tu veux, il a bougé. Tu te rends compte que tu es sous un couloir aérien de bâtard, là. Tu vois, t'es dans l'axe Toulouse-Blagnac-Paris, tu vois. Donc, toutes les deux minutes, il y a un A380 qui saupoudre de kérosène le toboggan que t'as acheté à tes gosses. Oh, putain. Qui saupoudre le scénic avec des parsonnels Reine des Neiges, si tu veux, non, mais c'est le cauchemar. Là, t'es un enfer. Pour tous les gens déchristianisés, qui ont connu ça, L'enfer existe. Donc, si l'enfer existe, ça veut dire que le paradis existe. Faut que vous le compreniez. Si tu peux t'acheter une maison dans le centre de Carcassonne, à Saint-Cyr-la-Popie, en Dordogne ou sur l'île de Ré, c'est que tu peux aussi acheter une maison en enfer, en fait. Tu vois, tu peux aussi acheter une maison entre Magali numéro 1, Magali numéro 3, parce que Magali numéro 2, eh ben, c'est ta femme et elle t'a fait des coquillettes au jambon avec le ketchup qui fait un sourire dans ton assiette de fils de pute acheté chez Casa. Et encore Casa, c'est pour les bourgeois du Dream. En général, c'est Action. Tu vois, t'as une assiette Action avec des coquillettes, du jambon plein de nitrates et il y a Magalax qui a pris 30 kilos depuis que tu t'es calé avec elle, qui t'a fait un sourire dans l'assiette. D'accord? Ça, ce sont des étincelles de Fred Jerry, mais on va creuser, on va aller dans l'abysse, on est avec James Cameron là, on n'est pas dans l'Ocean Gate, c'est-à-dire que, si vous voulez, bon, je garantis pas qu'on n'y est pas, parce qu'à un moment, quand tu vas trop profond dans l'abîme, si tu veux, bon, le sous-marin, il explose, tu vois, mais là, on va quand même descendre, on va dépasser la strate où il y a le Titanic, on va aller plus profond, on va aller chercher le Dreamer là où il est, c'est-à-dire dans les tréfonds des abysses du plancher océanique, tu vois, voilà, bon, alors... Déjà, tu t'es endetté comme un fils de pute pour acheter une baraque qui n'était pas la baraque de tes rêves. Et là, tu sens que tu t'es fait enculer par les boomers. Parce qu'ils sont arrivés pendant les 30 Glorieuses, quand toute la génération d'avant qui s'est tapé les guerres avait fabriqué une France premium. Ils sont arrivés, ils sont allés à la fac. On veut jouir, on veut être maoïste. On veut éjaculer dans des culs et pouvoir divorcer au bout de 10 ans, tu vois. Tout ça, ils l'ont eu. On veut des retraites. Faites venir des Arabes pour nos retraites. Faites venir des Noirs pour nos retraites. Donc à la fin de ton pays, ça ressemble à une salade composée avec des aliments que t'as acheté chez Leader Price, en fait, tu vois. Eux, ils ont bien joué, ils voient pas où est le problème. Ils te disent, attends, moi, de mon époque, on traversait la rue, on trouvait du boulot. Oui, d'accord, moi, je traverse la rue, je prends un coup de couteau, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Tu vois, là, il y a un petit problème. Donc, déjà, tu es seul. Déjà, tu es seul parce que la génération qui arrive après toi sont des décérébrés, sont pas des êtres humains, ils ne comprennent pas. C'est comme aller au zoo et lire du Zola des singes, si tu veux, ils vont pas comprendre. Et la génération avant toi a trop joui. Elle est dans un état postpartum, en fait. C'est-à-dire que les boomers ont tellement éjaculé, ils ont tellement joui, ils ont les couilles tellement vite que là, ils dorment. Et t'es là en train de leur secouer l'épaule. Et oh, attendez, vous m'avez légué un pays de merde! Ça déborde, il y a des rastaquaires de partout. Il y a 20 mosquées dans la ville, alors qu'il n'y en avait pas en l'an 2000, comme par exemple la ville de Muret, c'est celui que j'ai connu. Voilà. Oui, alors le grand emplacement n'existe pas, alors attends, bouge pas. Donc, ville de Muret, 2000, il n'y a aucune mosquée. Ville de Muret, dans le 31. Ville de Muret, 2025, il y a 3 mosquées. Il y en a une turque, il y en a une marocaine et il y en a une qui est associative, je sais pas ce que c'est les salafis, les frères musulmans, j'en sais rien. Bon bref, 3 mosquées à Muret. Toc, toc, toc. Oui, bonjour, oui, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le déclassement. Ah, alors regardez, ça c'est mon fils, c'est la porte d'à côté. Donc si vous voulez, les boomers, ils ont joui, ils ont éjaculé, ils dorment, ils font la sieste de quand t'as baisé. Tu t'es vidé les couillasses, t'as le prépuce qui baigne dans l'espèce de lubrifiant, tu vois, qui va faire que ton shop skipsta pue la mort, tu vois. Mais pour l'instant, il dort. Le boomer dort, il a trop éjaculé, il a trop bouffé. Il s'est fait péter une bouteille de Dom Pérignon, il est allé chier, donc il a les tripes complètement vides, il t'a pris un petit peu de bicarbonate de soude, il a tiré son cou dans le cul qu'on appelait la France, tu vois. Et là, il va dormir et il laissera la République gérer. Donc là, il y a un trou de la sécu de fils de pute, c'est à toi que ça incombe. Il y a un vivre ensemble de merde avec des Maliens à yeux jaunes et des Algériens revanchards qui t'expliquent que l'Algérie, c'est le plus beau pays du monde. Ils y ont foutu les pieds 3 étés en 20 ans de vie, si tu veux. Et après, ils vont au Maroc, ces enculés. Faire du quad, quand? Et se prendre pour des riches avec leur salaire français là-bas. Bon, bref. Donc, si tu veux, tu t'es fait baiser. Il y a la dette à rembourser. Il y a eu la course au nucléaire. Donc là, tu hérites d'un monde où les Pakistanais ont la bombe nucléaire. Je rappelle que les Pakistanais, ce sont des jeteurs de caca indiens qui se sont convertis. Ils ont récité la charada, en fait. Ce sont des Indiens jeteurs d'excréments qui ont récité la charada. Et les États-Unis leur ont donné la bombe nucléaire. Tiens, cadeau. Voilà. Ça, il faut comprendre, tu vois, que tu vis dans ce monde-là, en fait. Non, tu vis dans un monde où t'es imposable quand tu montes une entreprise à 70%, et tu peux te faire kidnapper par une équipe de noirs parce que t'es lié à un mec dans la crypto-monnaie, si tu veux. Voilà. Tu arrives dans ce panorama-là. Bon. Et là, en fait, tu essaies de reproduire le lifestyle de tes parents. Là, tu te dis, je vais vivre la vie de mes parents. Donc, déjà, tu veux être propriétaire. Tu veux être propriétaire. Alors, tu commences à regarder les baraques, tu sais, t'essaies de trouver El Famoso, quartier pas trop cher dans Toulouse intramuros, dans Lyon intramuros, dans Grenoble intramuros. Bon, spoiler alert, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les boomers ont tout préempté et le reste, c'est des bureaux pour Generali, Transavia, je sais pas quoi, tous les trucs de fils de pute. Donc déjà, si tu veux, à moins de 100 000 euros par mois, t'as rien, tu peux pas t'installer. Bon. Ensuite, il y a la coloc de fils de clochard de merde, de hippie réchappé de Woodstock de merde. Bon, déjà, ça me donne envie de gazer les gens. Quand t'es à coloc, en coloc à plus de 30 balais, tu mérites de l'osiclomber, tu vois. Donc ça, c'est exclu. Parce qu'à un moment, avoir un pote qui te vide le frigo alors que t'as 30 piges et t'essaies de ramener une meuf à la maison, tu veux la toucher, en fait, ça sent le shit parce qu'il y a ton coloc qui a fumé sur le canapé, c'est plus possible. Donc ça, on élimine. Donc, tu regardes juste après la ville, qu'est-ce qu'il y a? Mais juste après la ville, fils de pute, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a le califat! Il y a la ceinture! Il y a la ceinture mahométane qui cercle les villes quand ils ont plus qu'à envahir! Il n'y a plus que le... Le Mahdi. Ils attendent le Mahdi qui va venir leur donner l'ordre d'attaquer, en fait. C'est-à-dire que, si tu veux, les villes françaises sont ceinturées par un cordon islamique, en fait. Tu vois. Donc, si tu veux, tu as toute la banlieue qui ceinture le centre-ville. Hein. Ils n'ont plus qu'à fondre sur nos boomers pour aller planter le drapeau le drapeau du djihad sur la mairie de Toulouse, si tu veux. Voilà. Donc, tu as la ceinture islamique, tu ne peux pas aller vivre là-bas parce que tu vas être en décalage et puis ça n'est plus un territoire français. C'est un petit peu comme la bande de Gaza, si tu veux. Mais toi, ça compte pas. Toi, t'es le Palestinien de ton pays, mais ça compte pas. Eux, ils en ont rien à foutre. Ce qui compte, c'est les Palestiniens de Palestine, en fait. Les Palestiniens de France, c'est-à-dire l'autochtone qui se voit privé d'une large partie de son territoire par des nouveaux arrivants avec des religions différentes. Parce que je vous rappelle que c'est ça que reproche chez les musulmans aux juifs. C'est de leur prendre des morceaux de territoire, d'installer le judaïsme et de priver les autochtones de leur droit de situ. Bon. Eh ben, j'enjoins les musulmans de France à faire un examen de conscience et de se demander si c'est pas la même situation pour le franco-français, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, le quartier du Mirail se trouve dans Toulouse, qui se trouve dans la Haute-Garonne, qui se trouve dans la région Occitanie, qui se trouve dans le pays qu'on appelle la France, en fait, si tu veux. Donc, si t'as préempté un morceau de... Tu vois, il y a la bande de Gaza, il y a la bande du Mirail aussi, tu vois. Voilà, sauf que là, c'est pas de Sahel qui t'empêche d'y vivre, c'est la bande à Mouloud, si tu veux, voilà. Donc déjà, il y a ça. Donc là, tu ne t'installeras pas. Parce que, ben en fait, comme tu ne fais pas partie de la Houma, tu risques d'être de la cible de tous les larcins. Si t'as une fille, elle se fera violer. Si t'as une gonzesse et qu'elle est pas voilée, elle va se faire molester. Donc, tu vas à la campagne. Oui, mais à la campagne, il n'y a pas de boulot. Donc, comme un fils de pute, tu vas devoir te taper les embouteillages. Dans les embouteillages, tu vas écouter le dernier Vianney. Ce qui va finir de détruire ton âme. C'est-à-dire que tu te tapes les embouteillages, tu mets la radio, soit tu tombes sur France Inter qui est en train d'expliquer que t'es un sale fils de pute et que tu cotises pas assez pour le djihad, soit en fait tu tombes sur Vianney. La 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 la. Je suis dans les embouteillages car je veux participer au Dream. Je suis le coq en chef et je fais des chansons pour les autres coqs. Donc, si tu veux, t'es coincé avec Vianney dans une Renault Zoé. Elle est là, la vérité, con. C'est à ce moment-là que tu devrais déjà démissionner. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que t'as déjà un pied dans la... T'as déjà un pied dans la tombe. T'es dans une bagnole entourée de Renault Scénic sur le périph' toulousain de merde. Tu passes devant le cordon banlieusard où les mecs sont en train de dormir et ils tiennent les murs pour vendre du shit et toi t'es à la bourre pour ton boulot et tu t'es tapé 1h30 d'embouteillage. 1h30 d'embouteillage dans une Renault Zoé, c'était la dernière bagnole que t'avais envie d'avoir. Parce qu'aujourd'hui c'est les homosexuels qui designent les bagnoles, c'est plus les Italiens, con. Donc avant, les bagnoles, elles étaient carrées, elles étaient agressives, elles étaient là pour te montrer qu'il y avait de la performance, de la vitesse. Et quand c'était pas la performance, c'était le luxe. T'avais des sièges capitonnés en cuir avec des beaux cuivres, t'avais une manivelle pour la faire démarrer, c'était des tractions. Tu passais lever des gonzesses valables avec des bagnoles valables. Aujourd'hui, t'as une Renault Zoé de fils de pute. Et elle marche à l'électricité d'enculé, quand. Elle fait même pas de bruit. Putain, ça ressemble à des paix foireux, c'est exactement la même chose. Une bagnole électrique, c'est un paix foireux. C'est-à-dire que tu fais un truc de fils de pute sans prévenir personne. Tu te rends compte, les mecs qui se font écraser par des bagnoles électriques, ils savent même pas qu'ils vont mourir. Ils étaient en train de marcher comme des merdes, en train d'écouter du Vianney pour apprendre à être homosexuel. Et d'un coup, pam, t'as une bagnole électrique qui les percute, ils ont même pas senti la mort passer. Et ils arrivent directement en enfer parce qu'ils étaient athées. Mais t'imagines la catastrophe, putain. Au moins que tu la sens venir, la mort, quand même. Imagine te faire percuter par une bagnole qui n'a pas de moteur à explosion. Est-ce que déjà là, on n'est pas dans une époque de fils de pute? Est-ce que déjà, là, on n'aurait pas dû dire stop, stop, stop ? Il faudrait qu'il se passe ça. Dans une société saine, il y a un moment où on est tous sur... Mais j'ai connu ça, je vous fais pas la leçon, je l'ai connu avec ma Yaris de merde. Enfin, c'est des très bonnes bagnoles, la Yaris, mais je l'avais achetée, elle avait 300 000 km, si tu veux. Et je la conduisais comme un putain de 4x4, et le chien, il m'avait salopé les sièges à l'arrière. C'était un pot de yaourt, j'avais plus de frein, j'avais pas de pognon pour aller faire le contrôle technique. Alors, l'État français, qu'est-ce qu'il veut ? Que t'aies une bagnole impeccable pour ta propre sécurité, t'as bien fait le contrôle technique, et puis à un moment, t'as une OQTF qui te plante, quand. Et s'il est pas bosniaque, il est malien, quand. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait ? Ta bagnole, il faut que tes plaquettes de frein soient impeccables pour ta propre sécurité, et après, t'as le dernier des bandits du désert de la bande à Ras el Ghul qui peut venir te mettre un coup de lame un samedi soir parce que t'as pas voulu lui filer une clope, parce que plus personne fume, parce que les paquets sont à 10 balles. C'est ça, la France, en fait. Attention, monsieur, vous êtes un danger pour les autres. D'accord. Et les Afghans, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est pas un danger pour les autres, enfin ? Ils zonent dans un demi-désert avec un dénivelé de fils de pute qui leur permet pas d'avoir de l'oxygène dans le cerveau. Ils débarquent dans un pays où toutes les meufs sont décristianisées, donc c'est des putes. Et on leur dit « Attention, pas touche !» C'est comme si tu mettais un obèse dans une boulangerie pendant 72 heures et tu lui dis « Attention, pas de sucre !» Mais qu'est-ce qui va passer ? Il va mettre ses gros droits gourds, il va s'attraper un éclair à la vanille, là, pour le coup, et puis il va se l'empiffrer, quoi. Mais c'est pareil pour les Afghans, tu vois. Donc, en fait, on est dans un pays qui demande d'avoir les plaquettes de frein avec moins de 25% d'usure, et par contre, t'as un Afghan qui peut enculer ta fille dans un tunnel, comme ça s'est passé à Mont-de-Marsan, en fait, tu vois. Voilà. C'est la République. Donc là, ce qui devrait se passer, c'est que déjà le matin, quand le Dream commence à nous attraper dans les embouteillages, on devrait sortir notre bagnole et faire top, 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 temps mort. T'es mort, t'es mort. Les gars, qu'est-ce qu'on fout là ? Qu'est-ce qu'on fout là ? On est en train de cotiser pour les Arabes et les boomers ! Et on se tape 1h30 de bagnole alors qu'on a des vies de merde ! On vit avec des Magalax qui ressemblent à des lanceurs de poids de l'Union soviétique des années 80. On a des chiens qui en sont pas parce qu'ils ressemblent à des rats, parce qu'ils sont minuscules, parce qu'on n'avait pas suffisamment de testo pour se faire péter un loup tchèque, un malinois ou un énorme rottweiler. Et donc on a pris un chien de PD qu'on peut instagrammer. Quand... Sauf qu'en fait, il a des problèmes intestinaux tous les 4 matins et ça nous coûte 300 balles par mois de veto qu'on aurait dû mettre pour faire des voyages ou à la quête à la messe ou pour aller visiter les châteaux forts. Putain, le piège est en train de se refermer sur toi. Tu es dans une nasse, tu es dans une nasse. Mais non, c'est trop violent de se dire « Putain, je suis dans une nasse ». Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Tu continues, c'est la fuite en avant. Tu te dis « Non, non, cette vie a du sens. Cette vie a du sens puisqu'il faut que je me procure le prochain modèle de téléviseur. » Tu vois, c'est ça en fait. C'est que si je me tape tout ce trajet de merde dans le périph, tu vois, dans ma bagnole de merde qui ressemble à un plug anal parce qu'elle a été designée par un homosexuel de Paris, tu vois. Le même designer qui fait les meubles chez Flux, tu vois. Il n'y a pas un seul angle. Il n'y a pas un seul angle quand le mec, tout est rond, tout est une bille, tout peut être entré dans un anus, en fait, tu vois. Même ta bagnole, à la fin, même ta bagnole. C'est-à-dire que si tu trouves un cul suffisamment gros, tu peux garer ta Renault Zoé de PD dedans, en fait. Tu peux te garer dans un trou du cul, elles sont faites pour ça, les bagnoles modernes. Essaie de garer dans un trou du cul un putain de Range Rover des années 80, il n'y a que des angles. Ça te raclerait les fistules, ça te ferait péter l'anus, en fait, ça serait impossible. Ça, c'était des bagnoles hétérosexuelles. Les bagnoles, aujourd'hui, elles sont toutes sous trithérapie. On devrait avoir qu'une seule chanson qui passe dans nos bagnoles, c'est celle de Philadelphia avec Tom Hanks, là, qui marche avec des bubons sur la fif parce qu'il a le sida, tu vois. Elle devrait marcher. On devrait avoir droit qu'à cette chanson, tu vois, avec les bagnoles modernes. C'est-à-dire que t'allumes la radio, sur 100.1, tu vois. La 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 la, sometimes I'm on devrait avoir ça. On devrait avoir ça. Me forcez pas à vous la passer avec le téléphone. Je crois que je l'ai éteint. Je l'ai pas à côté de moi. Je devrais vous la passer, là. La 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 la. C'est le moment où t'as Antonio Banderas qui roule des galoches à Tom Hanks. C'est la dernière chose que t'as voir à Hollywood. Bon, après, croyez-moi qu'à Hollywood, il se passe des trucs encore plus sombres, hein, sexuellement. Là, au moins, il y a aucun fœtus qui a été enculé dans une cérémonie présidée par une chouette de 4 mètres à Bohemian Grove, tu vois. Mais tu vois, juste ça, c'est dégueulasse, en fait, tu vois. Voilà. Donc, nos bagnoles modernes, on devrait même pas avoir le droit de foutre du AC d'essai dessus, ou des musiques lourdes du Moyen-Âge, tu n'as pas droit d'écouter Moultest Guaritz, Chevalier Moustels Guaritz, t'aurais même pas droit de l'écouter parce que tu roules dans une bagnole qui n'a pas d'angle. À partir du moment où ta bagnole est un objet sexuel, designé par un homosexuel, tu n'as pas le droit d'écouter des chansons lourdes, en fait. Tu devrais tourner avec du Vianney et la BO de Philadelphia, fils de pute. Voilà, ça qui devrait se passer. Donc à ce moment-là, on consent. Et pourquoi est-ce qu'on consent ? On consent parce que la modernité nous donne des petites quêtes à faire pour nous garder dans la matrice. Attends, 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 Nicolas. Je sais que tu t'es marié avec une grosse, que tu bouffes des coquillettes et que t'as une bagnole de fils de pute que tu es. Je sais que t'as acheté un toboggan pour les gosses dont ils se servent jamais. Je sais qu'il y a le pare-soleil de la Reine des Neiges à l'arrière de la bagnole. Je sais, mais attends! Attends. Tu sais quoi? Tu veux une bonne nouvelle? Tu veux une bonne nouvelle, mon pote? Ben attends, tu peux t'acheter un écran plat. Eh ben tu vois celui que t'as là, c'est quoi? C'est un 80 cm de PD? Mais attends, tu peux avoir un 150 cm, ça va même jusqu'à 1m93 parce que c'est en pouces. Tu vois, donc tu peux avoir une diagonale de 1m93. Comme ça, quand tu regarderas les Marseillais à Miami, t'auras vraiment l'impression que ces fils de pute habitent chez toi, tu vois. Et là, tu vas vraiment avoir des sensations. Et puis ce que tu peux faire après, c'est aller te claquer une énorme branlette, et puis tu peux t'asperger d'alcool et de shit. Comme ça, tu sens pas la vie passer. Comme ça, t'es bien anesthésié. Et puis si tu veux, tu vas chez le médecin et je te prescris... 2-3 anxiolytiques là pour que tu sois bien éteint, tu vois, tu ressembles bien à une bougie morte, y a plus de cire, tout va bien, tu vois. C'est en fait la seule manière de vivre dans la modernité, c'est de ne plus avoir d'âme. C'est-à-dire, si t'es juste un corps qui fait caca, va travailler, paye ses impôts et consomme toute la merde qu'il y a sur la téloche, hein, tu vois, et sur Internet, c'est bon. C'est bon, t'as maté ta petite vidéo de Cyprien et de Squeezie. Tu as fait ton voyage en Thaïlande en te photographiant à côté des tigres que les Asiates ont piqué pour qu'ils soient drogués. Tu t'es tapé en catimini ton ladyboy en te rendant compte au dernier moment qu'il y avait un chibre, mais comme t'es un rat, t'avais déjà payé, donc c'est pas grave, l'homosexualité reste dans la capote. Hein. Et puis ensuite, tu rentres à la maison, te taper des coquillettes jusqu'à la fin de ta vie. Voilà, c'est ça que la République a prévu pour toi. Mais où est l'exaltation? Où est la vie là-dedans? Où est la vie? Où est la vie? Où sont passés? Parce que les quêtes, ouais, je veux bien. Ah ben, il me faut la prochaine paire de pompes. Ah non, mais attends, il me faut tel album. Ah non, mais attends, il faut que j'écoute tel truc en streaming. Ah non, mais attends, il me faut... là, je vais prendre ma bagnole et je vais avoir le modèle juste au-dessus de fils de pute. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est la beauté là-dedans? Où est la grâce? Notre monde a été supprimé de sa grâce. La beauté, c'est Dieu, en fait. La beauté est inspirée par Dieu. On a évincé Dieu de la modernité. On a évincé Dieu à cause du confort. On lui a tourné le dos. Comment on veut que lui ne nous tourne pas le dos, en fait? Comment tu veux, quand tu mènes cette vie-là de branlette, de shit, de C8, de « Hey, Bardella 2025 !» alors que Bardella, il veut que ça continue, les brouettes de fœtus, en fait. Je sais que le pays déborde d'arabes et que t'as envie de voter d'un truc pour qu'il rentre à la maison. Mais le problème, c'est qu'il va rien se passer, en fait. Tu vas voter Bardella, il va dire « Ouais, il y en a marre des Arabes et rien ne va bouger, en fait. » Parce que, si tu veux, c'est les banques qui ont le pouvoir. C'est pas Jordan Bardella, tu vois. Dont le parti européiste, dont le parti abandonné, tout ce qui était un petit peu rebelle. Voilà. Est-ce qu'ils se sont prononcés contre l'avortement? Voilà. Si t'es catholique et que t'écoutes ce podcast, tu sais que tu n'as pas le droit... c'est un péché de voter pour un parti qui ne s'attaque pas à l'avortement. Voilà. Si tu es dans un parti qui ne s'attaque pas à l'avortement, si tu votes pour un parti qui ne s'attaque pas à l'avortement, tu es dans le péché. En tant que catholique, que ça te plaise, que ça te plaît pas, que tu trouves des raisons, que tu trouves pas de raisons, c'est la réalité. Après, toi, tu t'arranges comme tu veux. Moi, je suis pas Dieu. Donc, tu t'arranges comme tu veux avec ta foi. Oui, mais attends, mais il faut bien qu'on vote. Non, mais si vous voulez, les gars, si on était tous à dire non, c'est pas possible, je ne mènerai pas cette vie-là, je n'irai pas dans cette baraque de merde en troisième zone entre Leclerc et Babou. Si je dis non, je préfère aller vivre à la campagne et gagner moins d'argent que de participer à vos embouteillages de fils de pute pour aller m'acheter. Je ne suis pas en train de cracher sur la consommation. D'accord? Moi, je veux être entouré d'appareils efficaces. Vous voyez, moi, j'ai un micro, un très bon micro. C'est le Patreon qui m'a permis de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas tordu mon âme pour l'avoir. Je n'ai pas fait des boulots qui ne me plaisaient pas pour l'obtenir. D'accord? Je me suis battu pour l'obtenir d'une manière qui n'aspire pas mon âme. Vous voyez, il y a une partie de ma vie où j'obtenais le confort. D'accord, donc la télé, la bagnole, en faisant des trucs qui étaient en train d'aspirer mon âme. Ça veut dire que je faisais passer le matériel devant ma sauvegarde spirituelle. Et ça, c'est une catastrophe, en fait. Ce n'est pas un discours anti-consommation. Ce que je vous dis, c'est que la consommation n'est légitime que quand elle est au service de votre bonheur spirituel. C'est-à-dire, moi, ça me plaît de faire des productions audiovisuelles pour pouvoir... si vous voulez, la communiquer à mes prochains, ce n'est pas quelque chose qui m'a demandé des sacrifices, des parts de moi-même. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne veux pas Sacrifier mon âme, c'est ce que j'ai de plus. Je peux sacrifier du temps. Je l'ai eu fait, ça, de sacrifier mon âme. C'est-à-dire, par exemple, de faire des boulots où j'avais des sous-chefs de merde que j'avais envie de tuer. Et ça me faisait de la tachycardie. Et j'ai perdu des années de vie. Et j'ai eu du stress oxydatif qui m'a fait vieillir prématurément. Je suis passé par là. Mais il y a un moment où j'ai dit stop, je mènerai pas cette vie-là. Vous me ferez pas bouffer des putains de coquillettes avec le sourire, avec le ketchup. Vous me ferez pas vivre dans une baraque en troisième zone de. Et ça, je l'ai fait avant YouTube. Avant d'être connu, avant d'avoir l'argent de YouTube, j'étais déjà parti à la campagne. Je vivais déjà à la campagne. Et je m'étais débrouillé pour ne pas taper les embouteillages. Je faisais un boulot qui était moins qualifié que ce pour quoi j'étais formé. Parce que je ne voulais pas d'ordre mon âme. Et au moins, avec le déménagement, je travaillais avec des mecs solides, des mecs sains. C'était un boulot difficile. Hein. Courage à ceux qui le feront toute leur vie, parce que c'est certes, ça te maintient en forme, mais quand même, ça te voilà, c'est un boulot qui te prend beaucoup d'énergie. Donc, quand tu arrives à la maison, tu as peut-être moins d'énergie pour faire d'autres projets. Mais si vous voulez, c'est au moins, c'était sain. Tous les trucs où tu avais des interactions avec des espèces de sous-chefs de merde, ça, je me sabordais à chaque fois. C'est-à-dire que je faisais un an de boulot et je me sabordais parce que je ne pouvais pas accepter de devenir ce mec-là. J'ai même fait une crise d'angoisse. Un des derniers boulots que j'ai fait, j'avais un espèce de sous-chef de merde. Une merde, mais qui c'était au village des marques de Naïou. Et j'avais un sous-chef... un espèce de chef faillon qui était une merde, qui voulait toujours te prendre sur le fait, mais une merde, qui s'était acheté un 4x4 parce qu'il avait une petite bite, mais vraiment mais les 4x4 de PD, vous savez, les 4x4 qui ont aucun ratio de franchissement, en fait. Mais c'était l'enfer, ce mec-là, c'était l'enfer. Un espèce de parvenu avec des goûts de merde. Il était habillé avec du Orly de merde thermocollé et des montres Hugo Boss de tocard qui sont fabriquées en Chine et qui sont vendues 350€ la montre, alors qu'en fait, c'est le même système qu'une montre à 10€. C'est juste qu'il y a écrit Hugo Boss dessus et que ça a été collé. T'as des espèces de pièces en plastique chromé dessus. Enfin, c'est de la merde. Et ce mec-là, mais c'était le comble du parvenu, du mauvais goût, de l'arriviste de merde. Et j'avais un sous-chef comme ça et je pouvais pas l'empaler, en fait. Je pouvais pas l'éclater. Au Moyen-Âge, quand t'as un mec qui te tensait, si vous voulez, je vous explique un truc. Au Moyen-Âge, les gens étaient responsables de leur propre survie. Tu n'avais pas de sous-chef, t'avais des chefs qui étaient légitimes. C'est-à-dire qu'en fait, quand ton seigneur te disait quelque chose ou te faisait une demande ou t'intimait un ordre, c'était légitime parce que c'était l'homme qui te défendait. C'était l'homme qui avait la puissance d'exercer la puissance. Il avait la légitimité d'exercer la puissance. Il avait la puissance d'exercer la force. Ou il avait la force d'exercer la puissance. Donc, c'était logique. Et en plus, il y avait le côté transcendantal chrétien. Donc, les gens étaient responsables d'eux-mêmes. Donc, il n'y avait pas ce rapport de sous-chef qui te détruit, en fait. Quand vous avez des chefs de merde et qui sont toxiques pour vous, c'est un couloir vers la mort. Et moi, je l'ai senti très tôt et je me suis foutu dans la merde économiquement. Et c'est là où je me suis lancé sur Internet, je me suis lancé sur FDP, parce que je ne voulais pas pourrir et attraper un cancer dans ces boulots-là. Je voulais pas que mon âme et la part de Dieu qui a été mise dans mon corps soient tellement vexées, tellement tordues, que ça finisse par une attaque cérébrale ou une crise cardiaque à 50 ans. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Hein. Quand tu t'es trop de fois mis dans les bouchons, quand tu t'es trop de fois mais mal parlé par des PD en costard thermocollé qui font la moitié de ton poids et qui te font des petites réflexions de salope du tertiaire et que t'as pas pu emplâtrer, tu attrapes des cancers. Quand t'as connu le sud-ouest comme moi des années 90 et que tu arrives dans le marché du travail, comme ça a été le cas quand j'avais 20 ans, à Paris, et qu'il y a des espèces de... Mais des valets, c'est des valets, les mecs, ils ont des costumes tout serrés, là, sur leurs petites cuisses frêles et qui te disent... Et qu'est-ce que vous m'avez fait là avec ça là? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Mais fils de pute, tu veux que je te pende à un chêne là? Tu veux que je te pende à un arbre parce que ça me chauffe là à la sortie de Vieille Toulouse, de Castanet-Tolosan ou de je sais pas quoi là? Tu veux que je t'attrape comme en l'an 1012 quand les mecs comme toi ils fermaient leur gueule en fait et les hommes régnaient, tu vois? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu peux pas le faire parce que si tu mets une claque à un sous-chef, c'est la prison. C'est la prison. Tu mets une claque à une fiotte là du tertiaire qui te parle mal, c'est la prison. Tiens. Quand t'arrives là à la préfecture, ah mais ça vous me l'avez pas rempli. Tu sais que t'as attendu 3 jours qu'il y a des clandos qui ont été reçus pendant une demi-heure pour demander leur putain de papier et que toi t'arrives pour faire une putain de carte grise et que tu déboules et que t'as Josiane et Jean-Michel administratif qui est en train de taper mollement en regardant son écran qui te répond pas et que tu peux pas lui mettre une mornifle dans la fif pour le réveiller. Oh je te parle quand. Oh l'oiseau là. Oh Bernard, je te parle. Est-ce que ton âme peut rentrer dans ton corps, fils de pute? Est-ce que tu peux oublier là que t'as un crédit à 58% et est-ce que tu peux revenir dans ton corps, si tu veux? Est-ce que tu peux dépasser les frontières de l'anxiolytisme, les frontières de la baisse de la testo et de la comment on appelle ça, de la dopamine à cause du porno? Est-ce que tu peux? Eh oh Jean-Luc, est-ce que tu peux revenir dans ton corps pour t'occuper de mes papiers, s'il te plaît? Est-ce que je peux arrêter de parler à un putain de vampire? Est-ce que je vis en France ou en Transylvanie, bordel? On vit en Transylvanie! On parle à des mecs qui sont tout blancs au fond de cercueil, en fait. Et qui vont être remplacés par des IA. Ben vivement! Vivement! Je préfère parler à une machine qu'à un dreamer. Parce que la machine, elle ne peut être que machine, elle ne passe pas à côté de la vie. Alors que toi, t'as pas été fabriqué pour être une merde, par Dieu. Il t'a pas prévu pour acheter des piscines en solde à Jiffy qui seront crevées par tes gosses, tes enculés! Il t'a créé pour apprécier la beauté! De la putain de cathédrale d'Albi, pour aller voir des tableaux du Christ qui se fait battre par des enculés pour que tu comprennes ce que c'est que le sacrifice et la vie horizontale. Il t'a fabriqué pour aller voir des couchers de soleil en Dordogne. Il t'a fabriqué pour aller voir des matchs de rugby, des galas de boxe. Il t'a fabriqué pour que t'ailles faire des voyages, pour que t'ailles voir, pour que t'ailles dans un marché ou à la foire du cochon. Il t'a fabriqué pour la beauté. Il t'a fabriqué pour que tu puisses recevoir le monde qu'il a créé pour toi. Il t'a pas fabriqué pour que tu t'endormes et que tu te mettes des seringues de d'automutilation de l'âme. Il peut pas faire ça, Dieu. Il t'aime. Il t'a pas prévu pour que tu ne sois qu'un vaste renoncement. Je vis dans un pays de fils de pute écrasé par un gouvernement. Je dois pas broncher quand il y a une babouche qui me parle mal, parce que si jamais je vais au bout de ce qui me provoque, je vais aller en zonze. Parce que je suis blanc, et qu'un juge, il te jugera jamais pareil à toi qu'un multirécidiviste afghan, en fait. Ou algérien, c'est la stricte réalité. Et après, tu te fais traiter de tarlouze et de soumis par les mêmes qui prennent des demi-peines, quand toi, tu prends quatre fois le tarif. Vous voyez? Vous vivez en enfer, faut refuser ça. Faut aller dans des zones où t'es pas obligé de baisser les yeux. Faut faire des boulots où t'es pas avec des... C'est pas la question du salariat, c'est de faire ce qui te plaît. Que t'es pas un putain de sous-chef abominable qui fasse de toi un mort-vivant et un mec qui va crever d'une maladie des artères parce que tu te bouffes les sangs de pas pouvoir lui foutre une patate. Moi, je me rappelle, dans les années 90, les sous-chefs faisaient attention avec leurs salariés parce que c'était des Jean-Michel qui étaient fans de Johnny, qui conduisaient des bagnoles de merde, des R21, qui avaient des trous dans les portières et la mousse de la vitre, et de la mousse entre le latex, la courroie de latex qu'il y a contre la vitre et la vitre rétractable que la nivelle est la manivelle, elle est pétée, tu peux pas la descendre. C'était des mecs comme ça. Ils buvaient un pastis et ils fumaient des Malbec. Il fallait que les sous-chefs fassent attention quand ils leur parlaient, parce que les mecs, salaire, pas salaire, crédit, pas crédit, ils pouvaient t'en mettre une, en fait. D'accord ? Quand tu parlais à un cégétiste, tout cégétiste qu'il était, si tu veux, s'il était un peu trop au bout du rouleau, t'en prenais une ! Parce que les hommes étaient encore des hommes, oui, ils tournaient déjà un petit peu, quand même, aux anxiolytiques, enfin... Ils avaient quand même déjà, ils étaient quand même déjà dans l'apaisement du feu de la foi intérieure. Hein. Il y avait déjà le Ricard plein de glucose et d'éthanol et Josiane. Mais quand même, c'était des mecs qui avaient des principes. Oui, c'était déjà le grand abrutissement des populations. Faut pas rêver. Mais ils avaient quand même des tout ne passait pas, putain. Vous l'avez vu, la vidéo qui est passée? Il y a une espèce de racaille qui rentre avec un 12 chez un boulanger, un ancien première ligne. Il a attrapé le kiki, il allait lui mettre des claques. Quand il passe devant la porte d'entrée, ça fait ding-dong, comme t'as un nouveau client. Et à chaque tarte, t'entends ding-dong, ding-dong, tu vois, de quand t'as un nouveau client, quand t'as la boutique. Ça vous a tous fait du bien de voir ça. Pourquoi vous avez pas envie de le vivre? Qu'est-ce qui fait que ce boulanger, il a pu mettre une claque à un kiki en survette qui est venu avec un 12? Pourquoi il a pu faire ça? Parce qu'il est propriétaire de son commerce. Parce qu'il a le courage physique et mental et la capacité physique et mentale d'aller lui mettre des claques. Donc ce mec-là, il mourra jamais d'un cancer alors qu'il se lève à 3h30 du matin. Vous comprenez? Ouais, putain, les anciens, ils fumaient, ils buvaient, ils mouraient super tard. Parce que c'était des hommes libres. Parce qu'ils se faisaient pas mal parler par des PD de Framac. Sous-chef de je sais pas quoi de la préfecture. Il se faisait mal parler par personne. C'était très dangereux de t'embrouiller avec des ouvriers. Tu pouvais te faire casser la gueule à la sortie de l'usine si t'allais trop loin. Vous les connaissez, ces vidéos. Et ils voulaient passer plus trop aux infos, ces vidéos, parce que ça pourrait donner des idées à l'époque où les hommes étaient encore des hommes. Ils avaient encore des principes, des points d'ancrage, des limites. Je dépasserai pas, ou tu dépasseras pas cette limite parce que tu vas prendre une mornifle en travers de la FIF. Les FIF étaient en danger. Les FIF des mecs avec des costards thermocollés, là. Les Jean-Luc Communication, il fallait qu'ils fassent attention quand ils te parlaient. Parce que t'avais des ouvriers avec les yeux jaunes qui ont 2 semaines de vacances pour aller au Cap d'Agde. Ceux-là, fallait leur parler en faisant attention parce qu'ils avaient un peu trop écouté quoi ma gueule dans la Renault 21. Ils tournaient avec du quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, en fait, si tu veux. Les types, ils se dopaient à John Wayne le vendredi soir. Ils écoutaient du Eddie Mitchell et du Johnny. Quand ils arrivaient au boulot le lundi, ils avaient fumé 50 paquets de clopes le week-end avec Josiane. Ils s'étaient enquillés 1 litre de Ricard qu'ils étaient allés chercher au pas de la case. Je peux te garantir que le lundi matin, le patron de PD des années 90, fallait qu'il fasse gaffe. Sauf que même les patrons étaient solides, en fait. C'est ça, la réalité. Donc les patrons, ils savaient comment parler à leurs ouvriers. C'était un peu encore féodal, si tu veux. Là, ils savaient comment les prendre. Bon, Titi, là, t'as fait de la merde. S'il te plaît, reprends 3. Et t'inquiète, je t'arrangerai. C'était comme ça que ça marchait. Aujourd'hui, putain, tu parles à des machines qui sont des hommes. Donc, je préfère directement avoir affaire à une machine. Ce sera la grande punition pour les normies et pour les dreamers. Puisque vous êtes devenus des machines, vous serez remplacés par des machines qui feront mieux le travail de machine que vous. Parce qu'en fait, quand tu as oublié ton essence humaine au point de t'infliger 2h30 de bagnole pour aller faire un boulot que tu n'aimes pas, te faire cracher dessus par un homosexuel qui fait du running de PD avec du sous-matériel à Décathlon, et il a des, parce que je respecte les mecs qui font du running à haut niveau, mais il te fait des stats de merde et il a du matériel de running qui coûte 4 fois le prix que ça devrait coûter pour les stats qu'il fait. C'est-à-dire qu'il a des pompes, il a des X, tu vois, à 500 balles, alors qu'il devrait avoir des ASICS, tu vois. Et encore, les ASICS, c'est devenu trop, il devrait avoir des Artengo, tu vois. Je sais pas comment on l'appelle, là, des Kalenji, quoi. Il devrait avoir des Kalenji, le mec. Il a des pompes à 500 balles, alors qu'il fait des randos de PD avec 0 dénivelé, tu vois. Ben, le fait que ces mecs-là, en fait, tu acceptes de faire 2h30 de bagnole pour qu'ils te dictent ta vie. Que tu manges à midi un Tupperware dans lequel il y a des coquillettes de fils de pute, hein, au lieu de te faire une bonne tranche de pâté sur du pain de campagne, sur la nappe lavée à la javel par ta gonzesse, tu vois, et qu'ensuite tu rentres le soir et que tu te retapes 2h30 en passant par le Mirail, en voyant dans les tours les kikis babouches qui glandent et qui vendent du chichon pendant que tu payes tes impôts pour faire tourner cette république régicide et christocide et christophobe, et pour rentrer à la maison, pas avoir la force ni la chimie suffisante dans le corps pour bander et te taper Magalax le brontosaure, si tu veux, et que tu acceptes ce pacte, c'est que t'as signé un pacte avec le diable. Parce que le diable, on te le présente à un mec en costard avec des cornes de bouc, entouré de flammes et de démons, c'est pas ça le diable. Le diable, c'est l'antéchrist. Le Christ, c'est la beauté. Le diable, c'est la laideur. Et cette vie est laide. Elle manque de montagnes, elle manque des cimes des Pyrénées, elle manque de bière fraîche dans des verres très très lourds, des verres fabriqués en France, pas faits par des chintocs à l'autre bout du monde, d'accord ? Elle manque de ça, elle manque de saucisson bien sec, pas le saucisson mou de fils de pute. Tu le mâches, t'as l'impression de mâcher un Juliner, quoi. Putain, avant les saucissons étaient durs, comme la bite des hommes qui les mâchaient, et leurs avant-bras, tout était dur, tout était veineux, les sauciflards, les avant-bras et les bites, bordel. Et on est dans une époque de bande de mous, dans une époque de bande de mous qui se mettent garde à vous devant Zelensky, bordel. Un rabbin avec un treillis Décathlon, en nylon léger qui est même pas fait pour aller se la coller, quoi. Et qui veulent provoquer la Russie, alors qu'on a un régime régicide, bordel. Est-ce qu'on ferait pas mieux de reprendre Sainte-Sophie au lieu d'aller se taper entre orthodoxes et cathos, bordel de merde? La dernière chose que j'ai envie de voir, c'est une guerre entre Polonais et Ruskov. On a besoin de nos alcooliques pour lutter contre les Turcs, on va les se faire battre ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, bordel? Bordel. Et là où tu as fait un crime, c'est que la mission que t'avait donnée Dieu, qui était de respecter ton âme, ben tu l'as foutu à la poubelle. C'est pas une question de péché ou de faire des trucs de ouf. T'as violé personne. Mais si tu es dans une vie qui va te détruire, mon pote. T'es dans une vie qui va te détruire. Quelque part, il y a l'autre vie. Il y a l'autre vie, celle qui te demande de faire quelques petits efforts. Et après, Dieu, il fait le reste. Tu fais la première impulsion et Dieu fait le reste. Tu fais le premier pas et Dieu, il te trouve des solutions. Tu pars à la campagne. Au début, tu te dis, putain, il n'y a pas de boulot. Et tout d'un coup, tu entends parler d'une boîte de foie gras à Figeac qui recrute des mecs. Eh ben ouais, c'était pas le boulot que tu voulais faire, mais pas de, comment ça s'appelle? Pas de bouchon, pas de loyer exorbitant en ville. Donc finalement, ouais, tu gagnes que 1200 balles en mettant des étiquettes sur des conserves ou j'en sais rien, ou en faisant des trucs pour lesquels t'étais pas destiné à faire, voilà, de la conserve. Je dis ça parce que j'ai une boîte en tête là qui fait ça à Figeac, tu vois. Bon, ben tu vis aux alentours, tu vis dans un petit village du Lot, tu passes devant la place Champollion, tu vas garer ta bagnole sans problème, t'as pas un loyer exorbitant, tu vis encore dans la vraie France, tu vois. Putain, pour 300 ou 400 balles de plus, tu vas aller te foutre en ville à croiser des boomers de merde qui sont en train de regarder sur Internet s'ils peuvent acheter des riads au Maroc pour aller essayer de transporter leur révolution sexuelle d'enculés dans le royaume. Tu vois? Tu vas aller vivre là, en fait, et payer 300 balles de plus pour avoir une cage à poules. Regarder les Marseillais à Miami au lieu de boire un coup avec tes voisins et foutre tes gosses au rugby, qu'ils aillent jouer un petit peu pour le... à Userche, là. Ou pour le comment ça s'appelle le GSF, je crois que c'est ça, c'est ça le GSF là, Figeac. Mon père il a joué là-bas, l'équipe de Figeac, je crois que c'est ça, le GSF, je crois. Hein. Groupe 1 sportif Figeacois, le GSF, groupe sportif Figeacois. Putain, t'as pas envie d'inscrire tes gosses là-bas? Est-ce que tu crois qu'à Figeac, avec les fifs qu'ils ont, ils tournent au ratafia, les gonzes. Ils tournent au ratafia. Est-ce que tu crois qu'à l'école, au lycée Champollion, de Figeac, il y a un fils de pute de 68 ans qui va prendre tes gosses pour leur apprendre à s'enculer? Enfin, ça, c'est en ville. La réunion des trotskistes et des LFistes de merde. Est-ce que tu crois que les profs qui ont choisi d'aller enseigner à la campagne, il n'y a pas des risques qui soient un petit peu moins de gauche que ceux qui sont en ville, dans le centre-ville? Donc, voyez ce truc, le fait qu'on vous pousse comme ça, voyez, là récemment, j'écoutais un podcast de Ismaël, du Raptor. Il est super son podcast, vraiment, je vous invite à aller l'écouter. C'est un podcast qui est sur un créneau qui est plus difficile que le mien parce que lui, il est vraiment sur le développement personnel. Moi, je suis vraiment sur les délires, ça part dans tous les sens. Je vous garantis que c'est une mine d'or. Récemment, j'ai écouté son dernier podcast. Il disait un truc qui m'a beaucoup touché. Il disait, des fois, je pense à la vie que j'aurais eue si j'avais pas pris certaines décisions qui étaient insurmontables à l'époque. Et j'éprouve de la peine. J'éprouve même une forme de... Je sais plus le terme qu'il utilisait, mais c'était très juste. Il disait, des fois, j'ai envie de pleurer en pensant à ça. Je vous jure que ça me fait la même chose. Parce que je tourne en dérision ce truc-là, mais je l'ai connu. Les réveils à pas d'heure. Putain, 5h30 du mat. Tu sors de ton plumard. T'avais pas le pognon. Moi, j'avais pas le pognon pour faire tourner le chauffage. J'étais transi de froid. Je rentrais dans la douche. Je me douchais. J'avalais un café. J'allais prendre le Noctambus pour être à Rungis. Pour aller bosser dans un truc qui me plaisait pas, mon âme était en train, j'étais en train d'égrener ma jeunesse sur un tapis déroulant pour conditionner des rames de poulet halal dans des cartons. Je sais pas si vous rendez compte la tombe dans laquelle j'étais. J'étais dans le tombeau de l'âme. J'étais dans la fin de ma vie à peine 20 ans parce que j'ai fait ça à 20 ans. J'étais en train de m'agiter au fond de mon tombeau. Et mes mains touchaient les murs sans que j'aie besoin de tendre les bras parce que j'étais dans un long couloir vers le trépas éternel. J'étais déjà en enfer. J'étais déjà en enfer. Et ça a pourri ma vingtaine parce que j'ai travaillé. Quand j'étais à la vingtaine, je me suis oublié et j'ai vieilli prématurément. Après, c'est bien parce que ce vieillissement prématuré m'a permis d'être... d'avoir de l'éloquence, du recul sur moi, du recul sur la vie et m'a permis de tenir les discours que je tiens aujourd'hui. Mais l'autre côté, c'est que j'ai perdu 10 ans de ma jeunesse à refuser la beauté. J'aurais dû à l'époque tenter l'aventure, faire des boulots différemment, voyager. J'aurais dû peut-être aller vers l'artisanat. C'est des choses qui me plaisaient. Mais je me l'interdisais parce que je choisissais la facilité. Voilà. J'ai une coloc dans un truc miteux, mais c'était horrible. C'était horrible. Je roulais dans des poubelles. J'étais malheureux, malheureux comme tout. Et je me disais, putain, j'aurais jamais la vie de mes parents parce que je suis pas arrivé à l'époque de la profusion. Et je sentais que j'étais dans des trucs qui allaient détruire mon âme. Détruire mon âme. Pour ceux d'entre vous qui ont la possibilité de changer, vous avez toujours la possibilité de changer les choses. Une fois que vous l'aurez fait, vous sentirez à quel point vous êtes sorti de l'enfer. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je suis au paradis, le paradis c'est après la mort. Je dis que je suis dans une vie de liberté. Je suis dans une vie de liberté. C'est une vie de risque, c'est une vie où je n'ai pas de parachute, mais c'est une vie de liberté. Je ne suis pas en train de jouer contre mon âme, c'est-à-dire contre Dieu. Puisque mon âme, moi je suis d'argile, et mon âme c'est la part de Dieu que Dieu a daigné mettre dans cette argile. Quand je vexe mon âme, quand je tords mon âme, quand je ne sers que le corps, quand je suis là que pour me trouver à manger, que pour trouver un cul pour, dans lequel éjaculer, que trouver un endroit pour faire caca, appuyer sur un bouton et que le caca disparaisse dans les égouts, quand je ne sers qu'à acheter des écrans plats pour regarder le foot, je suis dans le reniement de mon âme, je suis dans le reniement de mon incarnation. Car je ne réponds qu'au corps, répondez à l'âme. La République a voulu supprimer Dieu pour que vous n'ayez plus d'âme, pour qu'elle puisse faire de vous des consommateurs, pour qu'elle puisse faire de vous des agents au service de ce régime. Le régime républicain a repoussé Dieu de vos vies pour que vous n'ayez pas un sentiment de vide quand vous êtes vide. Parce que la République te dit, ne t'inquiète pas, liberté, égalité, fraternité, je prends le relais, tu auras un salaire universel, tu auras un boulot merdique qui te donnera suffisamment à manger pour avoir tes coquillettes, tu seras un esclave heureux. Mais demandez-lui des comptes. Demandez-lui des comptes à cette République. Ah bon ? Mais quand est-ce que tu m'apportes de la beauté ? Quand est-ce que tu m'apportes de l'espoir ? Quand est-ce que tu m'apportes de la plénitude ? Quand est-ce que tu m'apportes de la réalisation ? Je ne peux pas me réaliser parce que dès que j'essaie de monter une entreprise, il y a un monceau de papier à faire et je suis imposable à 70%. Tu m'enlèves de l'espoir parce que tu inondes mon pays de gens qui le détestent. Tu m'enlèves de la beauté parce que tout ce qu'il y a de beau, tu le détruis. Tu pètes des statues pour faire des monuments qui ressemblent à des plugs anal. Quand tu me représentes à l'étranger, tu fais des cérémonies où il y a Philippe Catherine avec une couille à l'air dans un plateau de bouffe hein, entouré de femmes à barbe. Tu m'enlèves la beauté. Tu transformes mes églises en basic fit. Tu prends mes champions et tu les rends tellement minables qu'ils se justifient d'être patriotes. Et ils finissent par dire, oui, ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est pas rigolo. Attendez, je représente pas l'extrémisme. Macron, il a fait du bon boulot. Voilà. La République vous a tout enlevé. Et elle vous a fait croire par un récit savamment orchestré que la beauté n'a jamais existé. Que la beauté, et vous avez oublié la couleur, le goût et le parfum de la beauté. Et moi, je vous le dis parce que je suis sorti de ça, la beauté existe. La beauté existe. J'étais à Reims il n'y a pas longtemps, je peux vous garantir que la beauté existe. C'était sublime. Je suis retourné voir cette cathédrale magnifique. J'étais avec ma compagne magnifique. On marchait dans des rues magnifiques. On a bu un cidre produit localement. Alors je sais que c'est un crime de boire un cidre produit en Champagne au lieu de boire du champagne. Mais que voulez-vous, j'avais envie de cidre à ce moment-là. On a bu un petit cidre du secteur. On s'est régalé. La beauté existe. Et c'est pas des trucs qui coûtent des millions d'aller se faire un petit week-end à Reims quand vous êtes pas trop loin. J'étais sur Paris. C'était pas trop loin, j'ai mis un coup de bagnole, on s'est pris un petit hôtel, on allait visiter, on n'a pas dépensé des milliers et des cents, en tout cas beaucoup moins que quand tu vas en boîte hein, et que tu consommes 3 mojitos pour aller choper une Magali un peu moins obèse que celle que t'as à la maison. À un moment, faut arrêter d'être dans le reniement de nous-mêmes, bordel, on est des Français, on est fait pour la beauté. Le Français a été créé pour la beauté, il en était l'ambassadeur avec le Rital et le Grec. On en a été les ambassadeurs de la beauté. De la grâce, de la légèreté. Putain, c'est... Et c'est magnifique ce que disait le Raptor. Il disait, je pense à l'homme que j'étais et j'ai de la peine et moi, ça me le fait aussi. Et en fait, c'est terrible parce qu'on pense dans la détresse dans laquelle on était. Et cette détresse, vous ne pouvez en mesurer la force et l'écho qu'une fois que vous êtes sorti du trou, qu'une fois que vous êtes sorti du couloir de la mort, qu'une fois que vous avez arrêté de suivre la ligne jaune. Ou la ligne verte, pardon. La ligne verte. C'est une fois que vous êtes sorti de ça que vous réalisez à quel point vous étiez dans une autoroute vers le trépas. Quand je pense à Hugo d'il y a 20 ans, mais j'ai une peine stratosphérique. Quand je vois tous les sacrifices, les combats qu'il a fallu mener pour vous parler en homme libre aujourd'hui, j'ai envoyé la République se faire enculer. J'ai envoyé les francs-maçons se faire enculer. J'ai envoyé YouTube se faire enculer. J'ai envoyé mes ennemis politiques se faire enculer et leurs cadavres passent devant moi. Plus le temps avance, plus ils tombent. J'en ai vu passer un paquet qui voulaient ma peau et qui aujourd'hui sont dans le flop intersidéral et qui n'ont plus de carrière, à gauche comme à droite. La vie, Dieu m'a donné ça parce que j'ai résisté à chaque fois. Le dernier debout a gagné. C'est ce que tu apprends sur un ring de boxe. Le dernier debout a gagné. Moi, je suis encore debout. Il ne faut pas laisser la vie vous mettre à genoux. The Last Standing Man, disait le Queensberry en 1865, quand il a établi les règles de la boxe anglaise. Dit le Noblard. Comprenez ? Après, moi, c'est la boxe. Il y en a, ça va être la philosophie du rugby. On accepte de se faire des passes en arrière. Donc, on accepte, si vous voulez, de faire des choses qui sont contre-intuitives pour avancer. Magnifique philosophie. Et on le fait en équipe. Et face à face. Magnifique. Magnifique. Tout autour de vous, vous verrez, a une part de laideur, certes, mais a beaucoup de parts de beauté. Et si vous voulez, le piège actuel, c'est que même à droite, on vous concentre sur la laideur. Ouais, regardez, il y a tel OQTF. Ouais, regardez, il y a tel ministre, il a fait ça. Ouais, regardez, Louis Boyard, il est obèse. Ouais. Et la beauté. Et la reprise en main. Et le sparring. Vous croyez que ça l'empêche de vivre sa vie et de lutter pour son pays à Baptiste Cheval qui allait gagner les Golden Gloves. Non, parce qu'attendez, ce garçon, vous comprenez pas, parce qu'il est gentil, vous mesurez pas. Je vais expliquer un truc sur Baptiste Cheval. C'est quelqu'un que je prends très souvent en exemple, parce que, si vous voulez, on est tout le temps en train de chercher des chevaliers dans le passé. Vous voyez, on est là, Bayard génial, Godefroy de Bouillon, génial, Guillaume le Conquérant, génial. Je vous explique un truc. Il était dans le même pays que vous, Baptiste Cheval. Il est né dans le même pays que moi, dans le même pays que vous, la France en dégringolade. En plus, lui, il est né plus tard que moi. Donc, il a encore moins profité de la beauté de ce pays. Il est né dans un désert industriel, dans une famille nombreuse. Il a fait des boulots où son âme, il la mettait dans un mouchoir de poche et il mettait un coup de marteau dessus. Parce que quand vous êtes un boxeur, que vous aimez la boxe, je vous garantis que mettre je sais plus exactement ce qu'il faisait à l'usine, mais si vous voulez mouler des faisselles aussi bonnes soient-elles, hein, parce qu'on est en Normandie, donc c'est un régal, mais aussi bonnes soient-elles, mouler des faisselles, quand on rêve, c'est d'être boxeur. On n'est pas à Byzance, bon. Mais il avait un rêve, il avait un idéal, il avait une foi. La foi a permis d'aller se la coller à l'usine sans faire trébucher l'âme sur ça. C'est-à-dire, mon Dieu, je sais que je fais quelque chose qui est contraire à mes intérêts psychologiques et à mon épanouissement, mais c'est au nom d'un épanouissement prochain. C'est-à-dire, je vais bosser parce que je veux partir réaliser mon rêve aux États-Unis. Et à partir de là, Dieu fait le reste. Dieu va te donner les instruments pour que tu puisses, parce que tu as résisté, parce que tu n'es pas rentré dans la laideur du monde et que tu l'as rejoint dans un idéal de beauté, Dieu va commencer à paver ton chemin de petits éléments qui vont plus ou moins te faciliter les choses. Tu vois ? Voilà. Il est allé gagner les Golden Gloves de New York. Je vous explique un truc. Les Golden Gloves, c'est une compétition mythique. C'est-à-dire que nous, les Français, comme nous ne connaissons plus rien en boxe, parce que malheureusement, la boxe a été beaucoup combattue dans ce pays et elle a été aux mains de gens qui ont fait n'importe quoi avec. On a malheureusement un pays qui s'est désintéressé de la boxe et qui la connaît très très mal. Les Golden Gloves, c'est une compétition mythique qui a lieu dans chaque État américain. Et les Golden Gloves new-yorkais, c'est les Golden Gloves où tu as tous les Portoricains, où tu as tous les Cubains, tu as un sacré paquet de très très bons boxeurs. C'est pas les Golden Gloves du Delaware, c'est pas les Golden Gloves du Kentucky. C'est les Golden Gloves de New York, un des états les plus difficiles. Tu as la Californie, tu as Miami où tu as tous les Cubains, et puis tu as le Golden Gloves à New York. Regardez un petit peu. Baptiste Cheval, il a fait une compétition. À l'époque, j'avais remarqué, puisque j'ai été en fait arbitre de... En fait, je faisais le time sur un de ces combats de boxe, parce que c'était organisé par mon club à Toulouse. Donc, je l'ai rencontré à ce moment-là, on avait sympathisé, il me connaissait un petit peu, il suivait ce que je faisais. Il suivait ce que faisait le Raptor. J'en ai parlé au Raptor, je lui ai dit, regarde, ce mec-là, il est prometteur, c'est vraiment... Et le Raptor a généreusement décidé de le sponsoriser, alors qu'à ce moment-là, il n'avait pas, si vous voulez, montré grand-chose, il n'était pas professionnel ni rien. Regardez comme la vie et comme Dieu fait bien les choses. Un mec qui avait la foi et qui était bien câblé, paf, rencontre avec moi, j'en parle au Raptor. Le Raptor remarque Baptiste, commence à le sponsoriser. Le sponsor permet d'y croire, permet d'être mis en valeur par le Raptor. Permet d'aller voir d'autres sponsors, permet d'aller aux États-Unis, permet d'aller faire briller la France à l'étranger, permet de montrer aux Américains que non, les Français, c'est pas comme ils aiment à le penser, capitulation 44. Les Français, c'est le peuple qui a donné le plus de victoires dans les batailles de l'histoire. N'en déplaise aux gens qui disent les Français sont des fragiles. Les Français, en tout cas ceux jusqu'aux années 50, si vous voulez, ceux jusqu'en mai 68, sont le peuple qui a gagné le plus de batailles au monde. Voilà. Et moi, ça me fait rire quand on me dit oui, le vote. Vous croyez qu'il a attendu que Bardella lui donne les Golden Gloves et un sponsor et partir aux États-Unis? Et il est où aujourd'hui, Baptiste? Est-ce qu'il vit sa passion? Je crois qu'il a eu un enfant. Félicitations à lui, d'ailleurs. Il a un enfant. Il a une femme qu'il aime. Il a une famille nombreuse. Il vit dans une putain de baraque que j'ai entrevue parce qu'on avait fait un appel. Il m'a montré la baraque où il vivait en Normandie. Ce mec-là a déjà un pied dans le paradis. Il a le respect de ses contemporains. Il est entouré de types valables comme Ismaïl, comme Maxime Bossira. Vous comprenez le truc. Dieu fait bien les choses. Dieu fait bien les choses. Fais un pas vers lui, il en fait deux vers toi. Comment il fait deux pas vers toi? Il va te bénir. Qu'est-ce que c'est une bénédiction? C'est te mettre avec un entourage qui n'est pas toxique. C'est te donner les instruments qui vont te permettre de vivre ta vie de liberté. Vous voyez? Là, je vous ai donné une preuve par A plus B qu'il y a un mec qui n'a pas attendu le vote pour devenir la France qu'on veut et la France qu'on aime. Vous comprenez le truc? Alors lui, c'est un truc super... il a vraiment eu des couilles. Hein. Il est parti à New York. Moi, j'aurais pas eu ces couilles-là. Moi, par contre, j'ai eu les couilles de dire à mon patron, va te faire enculer. Il y a un moment où les mecs en thermocollés, je leur dis non, je vais être au chômage. Je vais me lancer sur Internet, je vais faire des vidéos, mais toi, le fils de pute que j'aurais pendu au Moyen-Âge ou à qui j'aurais mis une claque, je t'aurais éclaté les cervicales, je t'aurais mis une patate dans la tête, je t'aurais écrasé le tronc cérébral, tu vois. Tu vas pas me donner des ordres, fils de pute. Parce qu'en fait, je m'appelle Hugo Gilles Jimenez, j'ai été élevé par un daron solide, j'ai joué au rugby au BSR, tu vois. J'ai trop vu de mecs de 140 plaques me rentrer dedans tous les dimanches au stade de Blagnac ou à la Salvetage Saint-Gilles pour que tu commences à me raconter la vie, fils de pute. Parce que toi, t'es une petite merde qui sort de BTS MUC, d'accord. Ton daron fait des châteaux en allumettes, d'accord. Ta mère le trompe et elle fait de la gym sur le câble, si tu veux, sur un tapis de gym dans votre villa de fils de pute, tu vois, tu vas pas me parler mal en fait. Mon daron, c'est gros, tu vois, je vais pas dire son prénom, mais voilà, tu vois, mon daron, il a trop fait de pelote basque pour qu'un petit PD comme toi me parle mal en fait. Tu vois, il y a des corrélations comme ça, faut les faire. Hein. Mon daron est trop né à Figeac pour qu'une petite merde comme toi, qui vient de je sais pas quel arrondissement de Paris de mes couilles, vienne m'expliquer la vie sur un métier qui est un bullshit job en fait. D'accord? Parce que moi, j'avais un sous-chef. Faut comprendre, hein. Il venait, il me disait, quand j'active cette touche, dans quel secteur du village des marques je déclenche l'alarme? Dans la chambre de ta mère la pute, je déclenche l'alarme, t'as compris? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment, ces mecs-là, ils sont là, ils sont dans la perversion, ils veulent exercer leur pouvoir de petit chef, parce qu'en fait, ils sont frustrés de leur vie de merde, parce que certes, ils ont un gros salaire, mais ils n'ont aucune réalisation. Donc, faut qu'ils aillent torturer des salariés qui sont en dessous d'eux. Il y a un moment, je me suis dit, attends, Hugo, t'as fait des galas de boxe, tu t'es tapé avec des Algériens avec des bourrelets de nuque, tu t'es tapé avec des Angolais qui tournent au Tribulus, tu vois, et qui tournent au Dianabol, tu vois. tu t'es tapé avec des Marocains qui sont à la limite du Mauritanien, tu vois. T'as fait des combats de boxe comme ça. Pourquoi est-ce que ce fils de pute, rescapé d'un BTS MUC, d'enculé, de griffonneur, de petit cahier, de prise de notes, d'enculé avec ton MacBook de salope, peut te parler comme ça, en fait? Comment ça se fait qu'à Décathlon, ce mec qui est dans le rayon, il est dans le rayon fléchette, tu vois, il va acheter des balles de ping-pong et des fléchettes. Ça veut dire qu'il fait aucun des deux stylé. Parce que si tu veux, l'Irlandais qui boit des coups au pub et qui est le pro des fléchettes, je le respecte. Parce que je sais qu'il a fait suffisamment de sparring pour mettre une patate. D'accord? Et le mec qui joue au ping-pong, qui vient de la grosse Chine populaire et qui n'a pas le droit de vote, mais qui est quand même content d'appartenir à la Chine millénaire, qui prend les mosquées de Ouïghours pour en faire des toilettes publiques, si tu veux, tu vois. Lui, il fait du ping-pong, je le respecte. D'accord? Parce que déjà, lui-même, il s'appelle ping-pong, tu vois. Donc, en fait, quelque part, quand il fait du sport, c'est de la prédestination, tu vois, quand il fait du ping-pong. Et ensuite, parce que c'est cohérent. D'accord? Moi, un Chinois, j'attends pas de lui qu'il fasse, première ligne à monter ce truc. Par contre, il fait du ping-pong pour expliquer aux musulmans de la terre entière qu'à un moment, la Chine populaire, elle est là et elle va gagner tous les putains de finales de ping-pong, de tous les putains de Jeux Olympiques jusqu'à la fin de l'humanité, tu vois. Ça, quelque part, le fait que les Ouïghours n'endorment pas le soir, tu vois, ça me fait du bien, en fait. Vous voyez ? Donc à un moment, si jamais tu achètes des balles de ping-pong et des fléchettes, tu es un fils de pute ! Parce que t'es ni chinois ni irlandais ! T'es une petite merde ! Qui fait des voyages en Thaïlande et qui ne... Tu seras moins qu'un French arabique parce que t'es tellement une salope, t'es tellement castré que t'iras même pas te taper ton ladyboy. C'est-à-dire que tu vas juste te claquer des branlettes dans ton hôtel de merde, resort, Thaï resort de merde. C'est-à-dire que tu n'auras même pas le côté racaille qui va faire un dégât, en fait. Tu vas juste aller caresser un tigre tu vas aller caresser un tigre sous tranquillisant, en faisant des photos avec Magali, et quand tu reviendras, t'auras encore plus d'amertume, parce que tu continueras pendant 4 ou 5 ans à te faire des branlettes, en pensant à tous les ladyboys que t'as pas pu percuter, alors que tu sais qu'ils ont une chibre. Espèce de dégénéré d'enculé, va. Voilà, elle est là, la vérité. Voilà. Mais moi, à un moment, ma vie, elle est pas gouvernée par des mecs comme ça. Ça allait pas être ça. Ça allait pas être ça. Je me suis barré à la campagne. Voilà. Et en fait, tu te barres à la campagne et tout d'un coup, t'es à Riom et ça pèse. D'accord? Il y a des paysans qui font du quad. Les gonzes, il y a un gonze dans mon village, il s'est fait lever. En fait, il y avait des pièces secrètes chez lui avec des armes de Seconde Guerre mondiale, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des mecs opérationnels. Ces mecs, lequel de ces mecs-là va me dire « Ah ouais, on a un retard, ben gang, 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 non mais je sais pas si t'as vu, là, les OQTF, ta gueule, il a un flingue, il tue des canards, il fait du quad, il percute une paysanne solide qui fait pas du mauvais gras parce qu'elle mange du canard du sud-ouest, tu vois. » Voilà en fait. Donc les gars, c'est pas une question de budget, c'est une question de volonté. Mais même, je vais vous dire un truc, parce qu'en fait, vous n'allez pas me croire si je vous le dis. Je vous jure que c'est vrai. Je vous préfère au RSA, en train de vivre votre meilleure vie, en Ardèche, en Ariège, en vous faisant payer par la République pour l'écrouler plus vite. Moi, si vous voulez, moi je vous le dis, hein, si tous les Français pouvaient se mettre au RSA, pour qu'en fait l'État s'effondre et qu'il soit plus en mesure de payer tout le monde et qu'il arrête de nous demander des impôts et qu'il nous laisse faire les boulots qu'on a envie de faire et les business qu'on a envie de faire. Putain, mais vous préféreriez pas faire des crêpes, hein? Je vous jure, c'est un exemple à la con, mais je vous assure qu'il y a des pays, ça marche comme ça. Vous achetez un petit réchaud, vous faites des crêpes le matin sur un axe où il y a vos voisins qui passent. Putain, mais j'adorerais manger tous les jours une crêpe. Alors, pas au El Mordjane, mais manger une crêpe au sucre tous les matins que me fait un voisin, et c'est ça son entreprise. Et moi, je sais pas, moi, je fais du déménagement. Moi, je fais du déménagement. J'ai une petite camionnette, je fais du déménagement. Je m'occupe que des déménagements ruraux. Et un tel, il est berger, et un tel autre, il est charpentier. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais après, évidemment qu'il faut des boulots, il faut des gens, évidemment qu'il faut des gens. Là, je suis vraiment dans une image d'épinal grotesque, hein, parce qu'évidemment qu'il faut des gens qui aillent faire des boulots informatiques et tout. L'informatique fait partie de nos vies. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous voulez, d'ailleurs, en plus, la plupart des boulots informatiques peuvent être faits à la campagne. Vous voyez? Donc, on a besoin de ces gens-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, putain, vous préférerez pas cette vie-là plutôt que d'être concentré dans des villes à mal se faire parler, à croiser des clodos de merde, à pas arriver à garder nos bagnoles, à prendre des bagnoles avec des dimensions de tarlouse pour être sûr de pouvoir les garer. Mais c'est l'enfer. On vit en enfer. On va pas à l'église le matin parce qu'on vit en ville, c'est impossible de se garer. Mais c'est infernal. C'est infernal. Faut vivre à la campagne, les gars. Ou alors, si vous vivez en ville, vous trouvez un quartier, vous avez une église à côté, c'est préservé, mais ça existera de moins en moins, ça, je vous le dis. Ça existera de moins en moins. Donc voilà, c'est bien de convoquer les figures du passé, mais prenez exemple sur les mecs valables, modernes, quoi. Regardez Baptiste Cheval, il n'a pas des super pouvoirs. C'est juste un mec qui allait au bout de ses rêves. Lui, c'est la boxe, toi, c'est peut-être être tailleur de pierre, toi, c'est peut-être être informaticien, mais depuis la campagne, pour consommer d'autres produits que ceux que tu bouffes chez Aldi, et voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, les gars ? C'est tout. Et là, oui, il y aura du changement. Oui, notre pays va ressembler à autre chose. Mais putain, être des dreamers, collaborer à tout, sauf quand je vote. Je dis oui à la République pour les embouteillages, je lui dis oui pour le vaccin, je lui dis oui pour les Arabes, je lui dis oui pour le SMIC, je lui dis oui pour les prélèvements à 70%, je lui dis oui pour la cérémonie des JO, je lui dis oui pour tout, mais attention, attention. Ah là, là mon vote, il va pas être piqué des hannetons. Là, je vous garantis que quand Bardella il va passer, il va nous faire du macronisme de droite. Attention, ils vont en dire des choses islamophobes, hein. Voilà. Est-ce que les clandos vont rentrer chez eux ? Non. Non, parce que liberté, égalité, fraternité. Voilà. Liberté, égalité, fraternité. Donc, les Lumières, donc Panayip Bukele, en fait. Vous comprenez pas ? Vous comprenez pas ? Est-ce que vous pensez que Nayib Bukele, il peut arriver dans le pays des tièdes pour dire « Allez, on va prendre les dealers, on leur met une rafale à la Duterte ou alors on les fout en prison à la Bukele, quoi. » Est-ce que vous pensez que dans ce pays des droits de l'homme de merde dédié à la République, on peut faire ça ? Dans ce pays où les mecs qui sont censés défendre la France te disent « Ah oui, les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, l'arc républicain, parce que c'est ça, hein. Ils sont bien gentils tous, mais c'est l'arc républicain. Vous croyez qu'il a fait quoi, Bukele, avec l'arc républicain ? Il lui a mis un billet de 50 pesos dans le soutien-gorge, il lui a dit « Va me chercher une cerveza, s'il te plaît. » Tu vois ? Il a traité l'arc républicain comme une grosse pute dans un saloon, en fait. Tu vois ? Il a vu l'arc républicain des Lumières, tu vois, il est arrivé avec ses grosses Santiago de Salvadorien, et il a fait « Hombre ! Va me chercher, tiens, señorita !» Tu vois, parce qu'en fait, la République, c'est une femme. Il a dit « Attends, et toi, là, avec la bouche à pipe et les gros seins qui tombent, là. » va me chercher une bière là pendant que j'extermine les dealers de mon pays, en fait, tu vois. Donc là, l'arc républicain, les Lumières et la loge, ils sont allés se faire un petit peu enculer au comptoir, tu vois. Pendant que Bukele, il a sorti son gros flingue de pistolero, il a aligné tous les gangs, il les a éclatés, en fait, tu vois. Ça ne peut arriver que dans un pays où les gens croient en force du mal et aux forces du bien, en fait, tu vois. Parce que dans le pays où on croit aux forces du mal, on se dit non, attendez, ça c'est le mal, le bien c'est Dieu, le mal c'est Satan, Satan a le droit d'utiliser un flingue contre lui. Voilà. Vous comprenez? Donc, tant que vous serez timoré, non, mais attends, on ne pourra pas sécréter un Bukele si on n'est pas des Salvadoriens à la française. On ne peut pas sécréter un Duterte si on n'est pas des Philippins à la française. On ne peut pas sécréter un Trump si on n'est pas des Texans à la française. Qu'est-ce que c'est être un Français à la française ? C'est croire en Dieu, c'est refuser de cocher les cases, et pas que celle du vote. Toutes les autres cases. Je ne participerai pas à cette mascarade de fils de pute. Voilà. Plutôt armurier, tailleur de pierre, paysan, que BTS MUC de fils de pute pour vendre des assurances et des écrans plats, quoi. Voilà. C'est tout, les amis. C'est tout. Ni plus ni moins. Vous pouvez retrouver mes lives mensuels sur mon Patreon. D'accord ? Il y a des vidéos qui vont arriver sur mon Patreon. Il y a des sélections de films de western qui pèsent. Les gens qui sont sur mon Patreon se régalent. Rejoignez mon Patreon. L'adresse est sur Instagram. Vous allez tomber sur... Il y a des heures et des heures de live où je réponds à des questions. Et il y a des vidéos où je présente mes sélections de films par thème. L'héroïque fantasy, le western. Entre autres. Vous pouvez aussi me soutenir via l'achat de mes productions trimestrielles chez La Furia. Donc soit sur lafuria.com, soit chez votre vendeur de journaux en kiosque. Soit vous pouvez vous procurer mes BD et mes bouquins qui se trouvent aux éditions Magnus sur www.magnus.fr. Aussi simple que ça, éditionmagnus.fr. Voilà les amis. Je vous dis à la semaine prochaine. Rendez-vous tout à l'heure. Vous êtes gâtés aujourd'hui. Rendez-vous tout à l'heure pour une vidéo avec le Raptor où on extermine ce bon vieux Danny Caligula. Je vous dis à très bientôt. La bise, les amis, et merci d'avoir écouté. À très bientôt.